RCF.
Nous avons vu avec vous, Marie-Reine Mezzaroba, que dès qu'il y a de la différence entre les hommes, le sentiment de jalousie ne tarde pas à se lever dans le cœur ou dans le cœur de celui qui se sent lésé. Alors nous avons vu ça avec Cain et Abel, nous l'avons vu également avec la parabole des talents. Et on se dit, finalement, puisque la différence crée tant de tensions, est-ce qu'il ne faut pas mieux la supprimer ? Et vous évoquez cette question-là dans le livre sur la jalousie que vous publiez chez Nouvelle Cité. Sans différence, il n'y a pas de jaloux ?
Mais c'est ce qu'on imagine. Et vous savez combien de parents se donnent du mal pour ne pas faire de jaloux ? Et donc faire des cadeaux équivalents, de même montant, dans l'idée « je ne ferai pas de jaloux ». C'est une illusion.
Ça marche pas ?
Ça marche pas. Ça ne marche pas. Alors c'est vrai qu'on le voit au moment de Noël, c'est typique de voir comment des parents tiennent des comptabilités ou essayent de faire pour tout le monde pareil. Et puis alors notre société en ce moment essaye tout le temps de faire que tout le monde soit pareil. On n'a jamais été, je crois, à ce point à vouloir que tout le monde soit pareil pour qu'on ne soit pas jaloux ou parce que c'est vraiment la jalousie qui est à l'œuvre.
Donc rapporté au texte que nous avons vu, l'égalité parfaite, ça aurait été de pas faire du tout de différence entre Cain et Abel, de que Dieu les prenne en globalité tous les deux de la même façon, que les serviteurs reçoivent
la même somme.
Ben oui, mais on a envie de se dire oui, mais c'est l'égalité quand même, on a envie de ça.
Et oui, on a envie de ça. Et on va très loin, nous, en ce moment, puisqu'on se dit qu'une femme devrait être un homme ou un homme une femme, c'est-à-dire si on pouvait faire disparaître jusqu'au sexe. C'est terrible, l'égalité, la volonté d'égalité, même si d'égalité au sens de similitude, c'est-à-dire raboter toute différence.
Oui, et d'ailleurs, vous dites que la Bible met en scène justement cette tentation humaine d'abolir toute différence. C'est par exemple l'histoire de la tour de Babel ?
Oui, parce que la tour de Babel, c'est l'idée d'une seule langue. Alors, si on avait une seule langue, et qu'avec cette langue-là, on se comprenne sans équivoque. Si on ne pouvait plus interpréter les choses différemment.
Ce serait plus facile,
ça serait
croit-on.
Ça serait plus facile, ça serait moins douloureux. C'est douloureux de voir qu'on explique quelque chose à quelqu'un et qu'il comprend éventuellement le contraire de ce qu'on lui a dit, ou qu'il ne comprend pas les choses comme nous, ou qu'il les voit autrement. Quelquefois, c'est douloureux. Et du coup, on se dit, mais dans le langage scientifique, dans le langage technique, il faut qu'un mot soit précis et que quand on vous demande telle chose, vous vous apportiez pas autre chose. Donc, on rêve d'un langage qui serait un langage sans ombre, sans interprétation.
On retrouve ça dans le langage mathématique ou informatique, 0 et 1,
voilà.
Et puis toutes les combinaisons possibles.
Oui, c'est-à-dire un langage qui serait sans interprétation, qui n'engage absolument pas le sujet, qui essaye de comprendre qu'est-ce qu'on lui dit et qui fait quelque chose avec ce qu'on lui dit. Donc ce mythe de la tour de Babel, d'une langue unique, et le projet est de bâtir une tour qui monte jusqu'au ciel. C'est-à-dire on retrouve l'idée aussi de devenir Dieu. Et de construire, on retrouve la jalousie à l'égard de Dieu, de construire une puissance humaine qui aille jusqu'au ciel.
On retrouve dans cette envie d'égalité à tout prix quand même la question de la difficulté à accueillir l'autre, à faire avec l'autre et donc avec le manque.
Ah ben Babel, c'est vraiment l'idée de nier tout manque. C'est-à-dire, c'est tout le monde pareil, donc on peut plus, soi-disant, plus jalouser personne puisqu'on est pareil. En revanche, on jalousera plus Dieu non plus puisqu'on sera à sa place. Donc, c'est vraiment se débarrasser du manque, mais c'est une horreur, le résultat.
Vous faites, Marie-Reine Mezzaroba, la différence entre l'uniformisation, que l'on retrouve par exemple dans les dictatures,
oui,
et puis l'unité, dont parle aussi la Bible. Vous citez les textes de Paul. Quelle est la différence entre uniformisation et unité?
L'uniformisation, c'est tout le monde pareil. C'est je ne veux voir qu'une seule tête. Alors que l'unité, c'est l'unité dans la différence. Paul parle beaucoup du corps, avec chaque partie du corps qui est différente de la voisine. Et quand il dit « le pied peut pas dire à l'œil, j'ai pas besoin de toi », enfin, c'est tout à fait... Alors que effectivement, on est jaloux de ceux dont on voit qui sont à la tête. Enfin, et le corps a besoin de chacun. Alors le récit qui est le plus reconnu comme étant l'anti-Babel, c'est le récit de Pentecôte. C'est-à-dire le récit de la Pentecôte, c'est un seul feu, le feu de Dieu, mais qui se dépose en langue sur chacun. C'est-à-dire avec une singularité qui va faire que chacun reçoit une part de ce feu, et une part de feu, c'est rien que du feu, ça se divise pas le feu en fait. Le feu se donne et chacun va être habité à la fois par le même feu et en même temps dans la particularité de sa langue, de sa culture, de l'appropriation qu'il va en faire lui-même.
Marie-Reine Mezzaroba, réussir à construire une famille, une nation, une église, en intégrant les différences, c'est donc tout l'enjeu, en fait, de notre humanité.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est difficile, mais c'est un défi passionnant. Vous parliez des dictatures. Dans toutes les dictatures, il y a eu une illusion de pouvoir rendre les gens heureux parce qu'on aurait la solution et qu'en les mettant tous pareils, on y arriverait. Alors déjà, ça n'a pas marché pour deux raisons. C'est qu'on n'a pas pu les rendre tous pareils et qu'il y a toujours des gens qui finalement ont quand même pris le pouvoir. Mais la différence humaine, elle est constitutive. On est réellement tous différents. Et en fait, ça pourrait être notre joie au lieu d'être notre horreur.
Donc l'enjeu, c'est d'être tous différents, de laisser la place à l'autre, avec l'inévitable jalousie qu'il faudra reconnaître et traverser.
Voilà, exactement. Quand on est soi-même jaloux de se dire « regarde donc un peu qu'est-ce qui t'est donné à toi » au lieu de dire « l'autre a tout et moi je ne suis rien ». Et puis quand on se sent heureux de ce qu'on fait, ne pas imaginer que la vie des autres est sans valeur, sans importance et qu'il y a des personnes qui seraient supérieures aux autres, même si la hiérarchie humaine fait qu'il y a des patrons et des personnes qui ont des tâches plus simples, qu'il y a une hiérarchie dans les fonctions, n'empêche qu'on a super besoin de chacun.
Oui, mais comment rester à sa place, à sa juste place, qui n'est pas celle de l'autre? Alors on retrouve ça dans le milieu professionnel, effectivement, dans la famille, dans le couple, dans l'amitié.
On revient à cette histoire de consentir au manque, hein, c'est-à-dire de consentir au fait que on n'est pas tout pour l'autre, on n'est pas tout pour personne, il nous manque quelque chose, il manque quelque chose aux autres aussi. Et finalement, c'est ça notre bonheur, c'est-à-dire c'est ça qui fait la relation entre nous, le fait qu'on va pouvoir recevoir les uns des autres, se donner mutuellement des choses ou du plaisir ou de la rencontre à partir de nos différences.
C'est pour ça que vous dites dans le livre que l'enjeu aussi de la sortie de la jalousie, c'est de ne plus être dans le « moi » tout seul.
Complètement. L'orgueil et la jalousie vont ensemble, c'est-à-dire l'endroit où on veut être dans le « moi » tout seul, si possible « moi » sans Dieu, mais « moi » sans les autres, hein, c'est-à-dire « moi » tout seul par moi. Et on voit comment on a été éduqué à être autonome, à ne dépendre de personne. Combien ça peut nous être douloureux, des fois, de dépendre de quelqu'un, de demander quelque chose à quelqu'un. On voudrait se débrouiller seul. C'est quelquefois douloureux de demander.
Mais pour demander quelque chose vraiment à l'autre, il faut croire avoir quelque chose et que l'autre a aussi quelque chose et qu'ensemble, nous pouvons construire quelque chose.
Il faut accepter que la vie se donne entre nous. C'est-à-dire qu'on peut demander à l'autre quelque chose qu'on n'a pas du tout. Et dans certains moments, On se sent vraiment dépendant. Je pense par exemple aux personnes qui sont sur un lit d'hôpital et qui ne peuvent plus bouger. Elles sont dépendantes, y compris qu'on leur apporte un verre d'eau. Et si personne ne vient leur approcher ce verre d'eau, elles peuvent pas boire. Donc c'est une dépendance très grande et qui peut être difficile, qui peut être vécue amèrement, mais qui n'est pas vécue amèrement par tout le monde, mais qui est difficile. Accepter que l'autre nous apporte le verre d'eau. On ne sait pas ce qu'on lui apporte à ce moment-là. Mais mon expérience, c'est que les personnes qui acceptent de recevoir des autres leur donnent un espèce de rayonnement à leur insu. C'est-à-dire, je crois qu'il ne faut pas essayer de compter qu'est-ce qu'on est nous. Il faudrait arrêter de se comparer complètement. C'est-à-dire accepter de recevoir ce que l'autre donne et de donner sans même savoir ce qu'on donne.
Ne pas se regarder.
Ne pas se regarder. Il y a cette parole de Jésus qui dit « Quand tu donnes, que ta main droite ignore ce que fait ta main gauche » ou le contraire. Hein. Et je crois que c'est très juste. C'est-à-dire qu'il faut croire que la vie nous est donnée et se donne à travers nous, mais il faut pas tenir de compta. Accepter de recevoir ce que les autres nous donnent. Accepter de recevoir ce que la vie nous donne et essayer de pas retenir, c'est-à-dire de laisser passer et de pas avoir peur de perdre, de pas se dire ça m'est donné mais ça va s'en aller. Laisser passer les choses et voir que les autres sont toujours là autour de nous, nous donnent la vie.
C'est cette petite langue de feu que nous avons tous finalement et qui nous traverse, c'est laisser justement l'esprit être la vie en nous?
Absolument. C'est-à-dire cette langue de feu en nous qui nous fait reconnaître la langue de feu dans l'autre, qui nous fait nous réjouir d'entendre quelqu'un qui nous dit quelque chose et de se dire « Ah mais il a raison !» Enfin, pourquoi j'y ai pas pensé avant. C'est se dire « Mais il a raison, mais c'est illuminant !» Enfin, voilà.
Nous terminerons demain. Merci à vous, Marie-Reine Mezzaroba.